France Culture.
Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson. Réalisation Sophie Haute-Picon. Le velet, l'âne, le ballot et le bât.
Dans un petit endroit nommé le Monastier, dans une charmante vallée montagneuse située à 20 km du puits, j'ai passé environ un mois de jours délicieux. Le Monastier est remarquable pour la fabrication de la dentelle, l'ivrognerie, la liberté des propos et les dissensions politiques sans équivalent de ses habitants. On trouve dans cette petite ville de montagne des adeptes des quatre partis français, légitimistes, orléanistes, partisans de l'Empire et républicains, et tous se haïssent, se détestent, se dénigrent et se calomnient les uns les autres. C'est tout bonnement une Pologne de montagne. Au milieu de cette Babylone, je me trouvais être un point de ralliement. Tout le monde voulait se montrer aimable et aider l'inconnu. C'est principalement mon projet d'excursion vers le sud à travers les Cévennes qui provoquait cette réaction. On n'avait encore jamais entendu parler d'un voyageur de mon espèce dans le département. On me considérait avec mépris comme quelqu'un qui projette un voyage dans la Lune, mais également avec un intérêt respectueux comme un homme qui s'apprête à gagner le pôle inhospitalier. Chacun était prêt à m'aider dans mes préparatifs. Une foule pleine de sympathie me soutenait au moment critique des marchandages, pas la moindre démarche qui ne fût annoncée par une tournée générale et célébrée par un dîner ou un déjeuner. Octobre approchait déjà que je n'étais pas encore prêt à partir. J'avais décidé, sinon de camper en plein air, du moins d'en avoir les moyens à ma disposition, car rien n'est plus éprouvant pour un esprit détendu que la nécessité d'atteindre un gîte au crépuscule, et ceux qui cheminent à pied ne peuvent pas toujours compter avec certitude sur l'hospitalité d'une auberge de village. Une tente, surtout pour un voyageur solitaire, est ennuyeuse à planter, puis ennuyeuse à démonter. Et même dans la journée, repliée, elle ne passe pas inaperçue. Un sac de couchage, en revanche, est toujours prêt. On n'a qu'à entrer dedans. Il remplit un double emploi. Lit la nuit et valise le jour. Et il ne signale pas à tous les badauds curieux votre intention de dormir à la Belle Étoile. J'optais pour un sac de couchage. Et après plusieurs voyages au puits et maintes réjouissances pour moi et mes conseillers, un sac de couchage fut conçu, réalisé et apporté en triomphe chez moi. Cette chose née de mon esprit mesurait presque 6 pieds carrés, sans compter deux rabats triangulaires qui devaient me servir d'oreiller la nuit, de dessus et de fond du sac le jour. Je l'appelle le sac, mais c'est pure courtoisie. Ce n'était jamais qu'une sorte de long rouleau de saucisse en toile de bâche verte imperméable à l'extérieur et en peau de mouton bleu à l'intérieur. C'était pratique comme valise, chaud et sec comme lit. Je pouvais m'y enfoncer jusqu'au cou. Pour ma tête, je faisais confiance à un bonnet de fourrure, muni d'un capuchon qui se repliait sur mes oreilles et d'une lanière qui me passait sous le nez comme un inhalateur. En cas de forte pluie, je me proposais de me faire une petite tente avec mon manteau imperméable, trois pierres et une branche courbée. On comprendra aisément que je ne pouvais transporter cet énorme paquetage sur mes épaules de simple humain. Restait à choisir une bête de somme. Le cheval est la jolie femme de la gente animale. Volage, timide, difficile pour sa nourriture et de santé fragile. Il est trop précieux et trop rétif pour être laissé seul, de sorte que vous êtes enchaîné à la bête comme le galérien à son voisin. Il me fallait un animal petit, courageux et peu coûteux, d'un tempérament placide et paisible. Tous ces critères désignaient un âne. Au Monastier vivait un vieillard, peu sain d'esprit d'après certains, suivi partout par les gosses des rues et connu de la renommée sous le nom de Père Adam. Le Père Adam avait une carriole, et pour tirer la carriole, une minuscule ânesse, pas plus grosse qu'un chien, couleur de souris, l'œil aimable et la mâchoire inférieure décidée. La coquine avait je ne sais quoi de simple et de racé, une élégance de Quaker qui me plut sur le champ. Notre première entrevue eut lieu sur la place du marché. Pour me prouver son bon caractère, on mit chevaucher sur son dos les enfants l'un après l'autre. Et l'un après l'autre fut projeté les quatre fers en l'air, jusqu'à ce qu'une certaine méfiance commençât à régner en ces jeunes cœurs. L'expérience cessa alors, faute de volontaires. L'âne passa à mon service, moyennant 65 francs et un verre de liqueur. Le sac avait déjà coûté 80 francs et deux verres de bière, de sorte que Modestine, comme je la baptisais immédiatement, était tout compte fait l'article le moins onéreux. Cela allait dans l'ordre des choses, car elle n'était qu'un élément de mon matelas, un bois de lit automobile à quatre roulettes. J'eus une dernière entrevue avec le père Adam, dans une salle de billard, à l'heure ensorcelante de l'aube, alors que je lui administrais le cognac. Il se déclara profondément ému de cette séparation et affirma qu'il avait souvent acheté du pain blanc pour l'âne alors qu'il se contentait de pain noir pour sa propre consommation. Mais selon les meilleures autorités, ses propos étaient vraisemblablement les fruits de son imagination. Il était connu dans le village pour la façon dont il brutalisait sa bête. Il est pourtant certain qu'il versa une larme et que cette larme laissa une trace propre le long de sa joue. Je fis poser sur Modestine un bas du modèle habituellement employé sur les ânes, une barde, comme on dit, et je la chargeai de tout mon équipement. Le sac plié en deux, ma vareuse, il faisait chaud et je m'apprêtais à cheminer en gilet, un grand pain noir et un panier ouvert contenant le pain blanc, le gigot et les bouteilles. Tout cela fut encordé grâce à un système de nœuds extrêmement complexe et je contemplais le résultat avec une satisfaction orgueilleuse. À la vue d'un chargement aussi monstrueux, entièrement en équilibre sur le dos de l'âne, sans contrepoids par-dessous, sur un bas tout neuf qui n'avait pas encore eu le temps de s'user pour s'adapter à l'animal, et lié par des sangles toutes neuves qui se détendraient et s'étireraient probablement en chemin, même un voyageur très insouciant aurait pu prévoir le désastre imminent. Je m'éloignais de la porte de l'écurie comme un bœuf qui va à l'abattoir.
L'ânier novice.
Le clocher sonnait tout juste 9 heures alors que j'en terminais avec ces ennuis préliminaires et que je descendais la colline à travers le pré communal. Tant que je fus à portée de vue des fenêtres, une honte secrète et la peur de quelque risible défaite me retint de changer quoi que ce soit au chargement de Modestine. Elle trottinait sur les quatre petits sabots avec une sobre élégance de démarche. De temps en temps, elle agitait les oreilles ou la queue, et elle semblait si petite sous le fardeau que mon esprit se remplit d'appréhension. Nous passâmes le gué sans difficulté. À n'en point douter, elle était la docilité même, et une fois sur l'autre rive, là où la route commence à monter entre les pinèdes, je pris dans ma main droite le maudit bâton et l'appliquai, le cœur tremblant, contre l'animal. Modestine pressa son allure l'espace de 3 pas, peut-être, puis retomba dans son menuet. Un second usage du bâton eut le même effet, ainsi que le troisième. Je suis digne du nom d'anglais, et il est contre ma conscience de lever la main sur une créature du sexe faible. Je renonçai et la considérai de la tête aux pieds. Ses genoux tremblaient, la pauvre, et elle respirait bien mal. Il était clair qu'elle ne pouvait aller plus vite dans une montée. À Dieu ne plaise, pensais-je, que je maltraite cette bête innocente, qu'elle aille à son propre pas, et je la suivrai patiemment. Il n'est pas de mots pour décrire la lenteur de ce pas, qui était à la marche ce que la marche est à la course. Je devais rester sur chaque pied pendant un temps incroyablement long. En 5 minutes, mon courage était épuisé, et tous les muscles de ma jambe étaient en fièvre. Il me fallait pourtant rester près d'elle et régler mon pas sur le sien, car dès que je prenais 1 mètre d'avance ou de retard, Modestine s'arrêtait net et commençait à brouter. Je tentais bien de me dire qu'il faisait un temps magnifique. J'essayais de dissiper les mauvais présages de mon esprit grâce au charme du tabac, mais une image ne me quittait jamais. Les routes longues, très longues, par monts et par veaux, où 2 silhouettes se déplaçaient de manière infinitésimale, pied à pied, 1 mètre à la minute, mais comme les êtres ensorcelés d'un cauchemar, sans s'approcher du but le moins du monde. Survint alors derrière nous un grand paysan d'une 40aine d'années, le visage bourru et ironique, arborant la redingote verte de la région. S'étant mis à notre poursuite, il nous dépassa et s'arrêta pour considérer notre pitoyable progression. « Votre âne, dit-il, est très vieux. Je lui répondis que je ne le pensais pas. Alors, supposa-t-il, nous venions de loin. Je lui répondis que nous venions à peine de quitter le monastier. « Et vous marchez comme ça ? » s'écria-t-il. Et rejetant la tête en arrière, il éclata d'un rire franc et durable. Je le regardais, à moitié prêt à en prendre ombrage, tant que dura sa joie. Puis il dit « Il faut être sans pitié avec ces bêtes-là ». Il cueillit une baguette à un buisson et commença à étriller Modestine dans la zone postérieure en criant. La coquine dressa l'oreille et partit d'un bon train qu'elle maintint sans faiblir et sans présenter le moindre symptôme de désarroi tant que le paysan resta à côté de nous. Ses halètements et ses tremblements n'avaient été, je regrette d'avoir à le dire, qu'une comédie. Avant de me quitter, mon Deus ex machina m'offrit quelques conseils excellents, quoique inhumains. Il me remit la badine à laquelle, selon lui, la bête serait plus sensible qu'à ma canne, et finalement m'enseigna le vrai cri, le mot maçonnique des âniers. Vruit ! Pendant tout ce temps, il me regardait d'un air incrédule et amusé, que j'étais fort embarrassé de devoir affronter. Ma façon de mener l'âne le faisait sourire, comme j'aurais pu sourire de son orthographe ou de son habit vert, mais ce n'était pas alors mon tour. J'étais fier de mon savoir nouveau, et je pensais avoir appris cet art à la perfection. Et certes, Modestine fit merveille tout le reste de la matinée, et j'eus le temps de respirer pour regarder autour de moi. C'était dimanche. Sous le soleil, les champs étaient vides, et quand nous traversâmes Saint-Martin de Fugères, l'église était pleine jusqu'à la porte, des gens étaient agenouillés sur les marches, et de l'intérieur obscur parvenait la psalmodie du prêtre. Je me sentis immédiatement comme chez moi, car je viens d'un pays où le dimanche est sacré, et toutes les coutumes dominicales provoquent en moi les mêmes sentiments qu'un accent écossais. La gratitude est son contraire. Je descendis la colline dans cette plaisante humeur, vers Goudet, situé au fond d'une verte vallée, auquel fait face Château Beaufort sur un rocher escarpé, tandis que le cours d'eau, clair comme le cristal, se répand en un étang profond entre eux. J'expédiai mon repas de midi et me remis bientôt en route. Mais hélas, pendant l'escalade interminable de l'autre versant, Vruit sembla avoir perdu sa vertu. Je vruitais comme un lion, je vruitais de façon aussi suave qu'une colombe qui tète, mais Modestine ne se laissait ni attendrir ni intimider. Elle s'en tenait obstinément à son pas. Seul un coup pouvait la faire avancer, pour un instant, guère plus. Je devais marcher sur ses talons en la travaillant sans relâche. Un moment de répit dans cette tâche ignoble et elle retombait dans son allure personnelle. Je devais atteindre le lac du Bouchet, où je voulais camper, avant le coucher du soleil. Et pour en entretenir au moins l'espoir, il me fallait sur le champ maltraiter cet animal qui subissait tout sans une plainte. Le bruit des coups que je lui assénais me rendait malade. Un moment, quand je la regardais, elle me rappela une dame de ma connaissance qui m'avait autrefois accablé de ses bontés, et cela accrut l'horreur que m'inspirait ma cruauté. Pour aggraver les choses, nous rencontrâmes un autre âne qui vagabondait à sa guise au bord de la route. Cet autre âne s'avéra être un monsieur. Modestine et lui brèrent de joie. Je dus séparer le couple et interrompre aussitôt leur romance par une nouvelle bastonnade fiévreuse. Si sous son pelage avait battu un cœur mâle, l'autre âne me serait tombé dessus à coups de dents et de sabots. Ce fut une sorte de consolation. Il était évidemment indigne de l'affection de Modestine. Mais cet incident m'attrista, comme tout ce qui rendait manifeste le sexe de mon âne. Il faisait une chaleur brûlante en haut de la vallée. Il n'y avait pas le moindre vent, le soleil s'acharnait sur mes épaules et je devais manier mon bâton avec tant de constance que la sueur me coulait dans les yeux. De plus, toutes les 5 minutes, le paquetage, le panier et la vareuse se mettaient à pencher désagréablement d'un côté ou de l'autre. Et je devais arrêter Modestine, au moment précis où je lui avais imposé un rythme supportable d'environ 3 km à l'heure, pour tirer, pousser, épauler et rajuster le chargement. Enfin, au village d'Ussel, tout l'échafaudage glissa et vint s'étaler dans la poussière sous le ventre de l'âne. Pas autrement ravi, la bête s'arrêta et sembla sourire. Un groupe composé d'un homme, de 2 femmes et de 2 enfants arriva. Ils formèrent un demi-cercle autour de moi et encouragèrent Modestine par leur exemple. j'eus toutes les peines du diable à remettre le fourniment en place, et à l'instant où j'y étais parvenu, il se renversa et tomba sans hésitation de l'autre côté. On jugera si j'étais en nage. Et pourtant, pas une main ne se tendait à mon secours. L'homme me dit bien que mon paquetage aurait dû avoir une autre forme. Je lui suggérais, s'il n'avait rien de mieux à me conseiller dans la situation où je me trouvais, de tenir sa langue. Et le misérable, plein de bonne volonté, exprima son assentiment en souriant. J'étais dans la pire des positions. Je dus simplement me contenter de confier à Modestine le paquetage et prendre moi-même une gourde d'un quart de litre, une vareuse aux poches lourdement chargées, 2 livres de pain noir et un panier ouvert plein de victuailles et de bouteilles. Puis je me mis à guider Modestine à travers le village. Selon son invariable habitude, elle essaya d'entrer aussi loin que possible dans chaque maison et dans chaque cour. Encombré comme je l'étais, sans une main libre, aucun mot ne pourrait donner une idée de mes difficultés. Un prêtre, accompagné de 6 ou 7 personnes, inspectait une église en réparation. Ses acolytes et lui rirent bruyamment en voyant mon état. Je me souvins d'avoir ri moi-même en voyant de braves gens lutter contre l'adversité en la personne d'un baudet. Et ce souvenir m'emplit de repentir. C'était du temps de mon insouciante jeunesse, avant que ne m'adviennent ces épreuves. Dieu sait du moins que je ne rirai plus jamais, pensais-je. Mais qu'une farce est donc chose cruelle pour qui en est le dindon. Un peu en dehors du village, Modestine, possédée du démon, jeta son dévolu sur une route de traverse et refusa positivement de la quitter. Je laissai tomber tous mes paquets et, j'ai honte à le dire, je frappai 2 fois la pauvre pécheresse sur le visage. C'était pitié que de la voir lever la tête, les yeux fermés, comme si elle attendait le prochain coup. J'étais au bord des larmes, mais je fus plus sage et je m'assis carrément au bord de la route pour réfléchir à ma situation sous l'influence joyeuse du tabac et d'une goulée de cognac. Pendant ce temps, Modestine mâchait un peu de pain noir d'un air faussement contrit. Il était clair que je devais faire un sacrifice au dieu des naufrages. Je jetai la bouteille vide destinée à transporter du lait. Je jetai mon pain blanc et, refusant d'agir comme le commun des mortels, je jetai le gigot de mouton froid et le fouet à eux, pourtant si cher à mon cœur. Tout put ainsi trouver place dans le panier et je pus même caser la vareuse sur le dessus. Au moyen d'un bout de ficelle, je me le mis en bandoulière. La corde me sciait l'épaule et la vareuse pendait presque jusqu'à terre, mais c'est le cœur infiniment plus léger que je repris la route.
J'ai un aiguillon.
L'auberge du boucher Saint-Nicolas compte parmi les moins prétentieuses que j'ai jamais visitées. Mais j'en ai vu bien d'autres semblables durant le reste de mon voyage. De fait, elle était typique de cette partie montagneuse de la France. Imaginez une chaumière à 1 étage avec un banc devant la porte. L'écurie et la cuisine communiquaient de sorte que Modestine et moi pouvions nous entendre dîner l'un et l'autre. Les meubles les plus simples, un sol en terre battue, une unique chambre pour les voyageurs et sans autre commodité que les lits. Dans la cuisine, on mange et on prépare les repas côte à côte. La nuit, la famille y dort. Celui à qui prend la fantaisie de se laver doit le faire en public à la table commune. La nourriture est parfois chiche. Mais les gens de l'auberge, dans 9 cas sur 10, sont amicaux et pleins d'égards. Dès que vous franchissez le seuil, vous cessez d'être un inconnu. Et bien que les paysans soient grossiers et rébarbatifs sur les routes, ils montrent un vernis d'éducation quand vous vous asseyez à leur foyer. Au boucher, par exemple, je pris ma bouteille de Beaujolais et je demandai à l'hôte de venir la partager avec moi. C'était un beau vieillard amical, doux, raisonnable, étonnamment ignorant. Sa femme, dont les manières étaient moins agréables, savait lire, mais je suppose qu'elle ne lisait jamais. Je dus subir un interrogatoire détaillé sur mon itinéraire. La dame comprit en un moment et esquissa ce que je devais mettre dans mon livre une fois rentré à la maison. « Si les gens font ou non la moisson à tel ou tel endroit, s'il y a des forêts, étudiez les manières des gens, par exemple ce que nous vous disions, moi et le maître de maison, les beautés de la nature et tout ça. » L'histoire de mes mésaventures les intéressait beaucoup tous les deux.
« Demain matin, dit le mari, je vous fabriquerai quelque chose de mieux que votre canne. Une bête comme ça, ça ne sent rien, c'est dans le proverbe. Dur comme un âne. Vous pourriez l'abattre à mort avec un gourdin sans arriver à rien.
Quelque chose de mieux. Je ne me doutais guère de ce qu'il me proposait. Béni soit celui qui inventa les aiguillons. Béni soit l'aubergiste du boucher Saint-Nicolas qui m'initia à leur usage. Cette simple baguette, avec sa pointe un huitième de pouce, était un vrai sceptre quand il l'a mis entre mes mains. Depuis ce jour, Modestine fut mon esclave. Un coup d'aiguillon et elle passait outre la porte d'écurie la plus accueillante. Un coup d'aiguillon et elle se lançait dans un brave petit trot qui dévorait les kilomètres. Cette vitesse n'avait en fin de compte rien de remarquable et il nous fallut 4 heures pour couvrir au mieux 15 kilomètres. Mais quel changement divin par rapport à la veille! Plus besoin de manier l'atroce gourdin, plus d'élancement dans mon bras endolori, plus d'exercice au grand sabre, mais l'escrime discret et digne d'un honnête homme. Certes, une goutte de sang perlait parfois sur l'arrière-train gris-souris en forme d'étau de Modestine. J'aurais préféré qu'il en fût autrement, c'est vrai, mais les exploits de la veille avaient purgé mon cœur de toute humanité. Puisqu'on ne pouvait la vaincre par la gentillesse, cette perverse petite diablesse, il fallait bien en venir à bout par l'aiguillon. Il faisait un froid âpre et mordant, et excepté une cavalcade de dames à califourchon et 2 ou 3 postillons, la route fut d'une mortelle solitude jusqu'à Pradel.
Le Haut-Gévaudan, un campement dans le noir.
Le lendemain, le mardi 24 septembre, il était 2 heures de l'après-midi que je n'avais pas encore fini de rédiger mon journal et de réparer mon havresac, car j'étais résolu à le porter dorénavant et à ne plus m'embarrasser de panier. Une demi-heure plus tard, je partis pour le Chélard-l'Évêque, à la lisière de la forêt de Mercoire. On m'avait dit qu'un homme mettait 1 heure et demie pour s'y rendre, et il ne me parut pas trop ambitieux de supposer qu'un homme encombré d'un âne pourrait couvrir cette même distance en 4 heures. Pendant toute la longue montée après Langogne, il plut et grêla alternativement. Le vent continuait à se rafraîchir, lentement mais sûrement. Des nuages abondants et pressés, les uns traînaient de droits rideaux de pluie, les autres, massés et lumineux, semblaient promettre la neige, venaient du nord au galop et me suivaient sur mon chemin. Je fus bientôt sorti du bassin cultivé de l'Allier, loin des bœufs au labour et autres images rurales du même ordre. La lande, les marais couverts de bruyères, les étendues de rochers et de pins, les bois de bouleaux tout sertis d'un jaune automnal, ici et là des chaumières nues et quelques champs désolés, telles étaient les caractéristiques du pays. Il devait être environ 4 heures quand j'atteignis Sagnerousse, et je poursuivis ma route, content d'avoir un point de départ certain. 2 heures plus tard, alors que la nuit tombait rapidement, je trouvais non pas le village désiré, mais un fond marécageux entouré de collines en désordre. Depuis quelque temps, j'entendais le tintement des cloches du bétail devant moi. Et maintenant, parvenu à la lisière du bois, je vis près d'une douzaine de vaches et peut-être autant de silhouettes noires que je supposais être des enfants, bien que la brume exagérât leur forme de façon à les rendre presque méconnaissables. Ils se suivaient tous silencieusement, tournant en rond. Tantôt, ils se prenaient les mains pour former une chaîne, tantôt se séparaient avec des révérences. À la nuit tombante, dans les marais, ce spectacle avait quelque chose d'inquiétant et de fantastique. L'instant d'après, j'aiguillonnais Modestine pour la faire avancer, et je la guidais comme on guide un navire rebelle vers le large. Dans un sentier, elle avançait spontanément, avec opiniâtreté, comme sous une bonne brise, mais une fois sur l'herbe ou dans les bruyères, la bête devenait folle. Les voyageurs perdus ont tendance à tourner en rond, et chez elle, ce penchant prenait les proportions d'une passion. Il me fallait user de toutes mes capacités de timonier pour lui imposer un parcours décemment droit à travers le moindre champ. Tandis que je louvoyais désespérément à travers le bourbier, les enfants et le bétail commencèrent à se disperser, et il ne resta plus que deux petites filles à qui je demandais mon chemin. Les paysans sont généralement peu disposés à renseigner un voyageur. À mon approche, un vieux diable s'était tout simplement retiré dans sa demeure et avait barricadé sa porte, et j'ai pu y tambouriner et m'égosiller, il fit la sourde oreille. Quant aux fillettes, c'étaient deux petites souillons insolentes et sournoises qui ne pensaient qu'à mal. L'une me tira la langue, l'autre me dit de suivre les vaches, et toutes deux gloussèrent en se donnant des coups de coude. La bête du Gévaudan a mangé une centaine d'enfants dans ce canton. Je commençais à éprouver pour elle une certaine sympathie. Quittant les fillettes, je poursuivis à travers le marais. Il faisait de plus en plus noir. Modestine, commençant soudain à flairer un mauvais coup, améliora son pas de son propre chef et dès lors ne me donna plus le moindre souci. Ce fut le premier signe d'intelligence que j'eus l'occasion de remarquer chez elle. Au même moment, le vent se mit à souffler plus froid, presque en bourrasque, et une nouvelle décharge de pluie violente arriva du nord. Dans cette obscurité tangible, hurlante, je n'étais sûr de rien que de l'orientation du vent contre lequel je tournais mon visage. La route avait disparu, et j'allais à travers la campagne, tantôt dans des marais découverts, tantôt stupéfié par des parois que Modestine ne pouvait escalader. Enfin, des arbres noirs se montrèrent à ma gauche, et traversant soudain la route, formèrent une caverne d'obscurité absolue juste devant moi. Je n'exagère pas quand je parle d'une caverne. C'était comme entrer dans un cachot que de passer sous cette arche de feuilles. Je tendis les bras jusqu'à ce que ma main rencontre une branche solide à laquelle j'attachais Modestine, hagarde, trempée, abattue. Je rompis la moitié du pain noir pour son souper en réservant l'autre moitié pour le lendemain matin. Je rassemblai ensuite à portée de main tout ce dont j'avais besoin. J'enlevai mes bottines et mes jambières mouillées et je les enveloppai dans mon imperméable. Je fis de mon havresac un oreiller sous le rabat de mon sac de couchage, j'introduisis mes jambes à l'intérieur et je m'emmaillotai comme un bambino. J'ouvris une boîte de mortadelle, je cassai une tablette de chocolat et ce fut tout ce que je mangeais. Je mis ensuite une pierre dans mon chapeau de paille. Je rabattis les oreillettes de mon bonnet de fourrure sur mon cou et mes yeux, je mis mon revolver à portée de main et je m'enfonçai douillettement dans la peau de mouton. Je me demandais tout d'abord si j'avais sommeil, car je sentais mon cœur battre plus vite que d'habitude, comme animé d'une plaisante excitation à laquelle mon esprit demeurait étranger. Mais dès que mes paupières se touchèrent, une glu subtile se glissa entre elles et elles ne voulurent plus se séparer.
Le Chélar et Luc.
En toute honnêteté, il semble que le Chélar ne valait guère de l'avoir tant cherché. Quelques morceaux de village sans ordre, aucune véritable rue, mais une succession de lieux ouverts où s'entassaient bûches et fagots, deux ou trois croix penchées, une chapelle de Notre-Dame de toutes les grâces au sommet d'une petite colline, le tout surplombant une vigoureuse rivière de montagne au coin d'une vallée nue. « Qu'es-tu donc allé voir ?» me dis-je. L'auberge était, encore une fois, singulièrement dénuée de prétentions. Tout le mobilier de cette famille, pas si mal lotie, se trouvait dans la cuisine. Il y avait cinq enfants, dont l'un fut mis à ses prières matinales au pied de l'escalier peu après mon arrivée, et un sixième devait arriver avant longtemps. Je fus aimablement reçu par ces braves gens. Mes bottines et mes jambières furent suspendues pour sécher, et, me voyant essayer de rédiger mon journal sur mes genoux, la fille aînée déplia une table à abattant dans le coin de la cheminée pour rendre mon travail plus commode. C'est là que j'écrivis, que je bus mon chocolat, et finalement mangeai une omelette avant de partir. Le mari avait commencé comme muletier, et quand j'en vins à charger Modestine, il se montra plein de la prudence de son art.
« Vous devrez changer ce paquetage, » dit-il. « Il faudrait deux ballots, et alors vous pourriez en transporter deux fois plus !»
Je lui expliquai que je n'avais besoin de rien de plus, et que je n'aurais coupé en deux mon sac de couchage pour l'amour d'aucun âne de la création.
« Ça la fatigue pourtant !» dit l'aubergiste. « Ça la fatigue fort dans la marche, regardez !»
Hélas, L'intérieur de ses pattes de devant ne valait guère mieux que de la chair de bœuf à vif, et le sang coulait dessous sa queue. On m'avait dit à mon départ, et j'étais prêt à le croire, qu'au bout de quelques jours, j'aimerais Modestine comme un chien. 3 jours s'étaient écoulés, nous avions partagé quelques mésaventures, et mon cœur restait aussi froid qu'une pomme de terre à l'égard de ma bête de somme. Elle était assez jolie à regarder, mais elle avait fait preuve d'une stupidité bornée. Rachetée, il est vrai, par sa patience, mais aggravée par des instants de légèreté désolante et malvenue. Et j'avoue que cette nouvelle découverte semblait un grief de plus contre elle. À quoi diable servait une ânesse si elle ne pouvait porter un sac de couchage et quelques objets de première nécessité? Je voyais approcher à grands pas la fin de cette fable quand je devrais porter Modestine. Ésope connaissait bien son monde. C'est plein de lourdes pensées, je vous l'assure, que je me mis en route pour ma courte journée de marche. Ce n'est pas seulement Modestine qui pesait sur mon esprit en chemin. Toute l'affaire m'écrasait comme plomb, du début à la fin. Premièrement, le vent soufflait avec tant de violence que je dus tenir le ballot d'une main, du Chélard jusqu'à Luc. Deuxièmement, ma route traversait l'une des régions du monde les plus misérables. On eût dit le pire des Highlands d'Écosse, mais pis encore, froid, nu et ignoble, avare de bois, avare de bruyère, avare de vie. Une route et quelques barrières rompaient la monotonie de cette désolation, et la ligne de la route était marquée par des poteaux droits qui servaient de point de repère par temps de neige. Pour quelle raison quelqu'un pourrait avoir envie de visiter le Chélard ou Luc, voilà qui dépasse mon esprit fertile en invention. Pour ma part, je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour aller. Je voyage pour l'amour du voyage. La grande affaire est de bouger, de sentir de plus près les besoins et les démangeaisons de notre vie, de descendre de ce lit de plumes qu'est la civilisation et de trouver sous nos pieds le globe granitique, semé de silex coupants. Hélas, tandis que nous avançons dans la vie, comme nos affaires nous préoccupent de plus en plus, il nous faut travailler même pour nos loisirs. Maintenir un ballot sur un bât contre les rafales glacées du Nord n'est pas un grand travail, mais cette industrie sert à occuper et à calmer notre esprit. Et quand le présent est si absorbant, qui peut se tracasser de l'avenir ?
Une nuit parmi les pins.
Après le dîner, bien qu'il fût déjà tard, je partis du Blémard pour escalader une partie du Lozère. Un chemin à bestiaux pierreux et mal indiqués me guida. Et je croisai presque une demi-douzaine de chars à bœufs qui descendaient des bois, chacun chargé d'un pain entier pour se chauffer l'hiver. Au sommet des bois, qui ne grimpent pas très haut sur ces collines froides, je m'enfonçai à gauche dans un chemin entre les pins, jusqu'à un petit vallon d'herbe verte où un ruisselet jaillissait par-dessus les pierres pour me servir de robinet. Le campement semblait sûr et privé comme une chambre. Quand j'eus fini mon installation et nourri Modestine, le jour commençait déjà à décliner. Je me bouclai jusqu'aux genoux dans mon sac et je soupais avec appétit. Dès que le soleil se coucha, je baissai ma casquette sur mes yeux et je m'endormis. Sous un toit, la nuit est une période morte, monotone. Mais en plein air, elle passe légèrement, avec ses étoiles, ses rosées et ses parfums. Et les heures sont marquées par les changements dans le visage de la nature. Ce qui paraît être une mort momentanée pour ceux qu'étouffent murs et rideaux n'est qu'un léger sommeil vivant pour qui dort à la belle étoile. Toute la nuit durant, il entend la nature respirer librement et profondément. Même quand elle est au repos, elle se retourne et sourit. Et il est une heure exaltante, inconnue de ceux qui vivent sous un toit, lorsqu'une influence ennemie du sommeil se répand sur l'hémisphère endormi et que toutes les créatures sont debout. C'est alors que le coq chante pour la première fois, non pour annoncer l'aurore, mais comme un joyeux veilleur qui presse le cours de la nuit.
Par quel appel inaudible, par quelle caresse de la nature, tous ces dormeurs sont-ils ainsi, à la même heure, réveillés à la vie? Tombe-t-il des étoiles une telle influence? Ou partageons-nous quelques frissons de notre mère la terre sous nos corps au repos? Même les bergers et les vieux paysans qui connaissent le mieux ces secrets ignorent tout des moyens ou du but de cette résurrection nocturne. C'est vers 2 heures du matin que la chose a lieu, selon eux. Ils n'en savent pas davantage et ne cherchent pas plus loin. Du moins, est-ce un événement plaisant? Nous sommes dérangés dans notre sommeil, comme le voluptueux Montaigne, seulement afin que nous puissions mieux et plus raisonnablement le goûter. Un moment nous est offert pour regarder les étoiles. Et notre esprit prend un plaisir particulier à la pensée que nous partageons cet élan avec tous les êtres qui nous entourent. Que nous nous sommes échappés de la Bastille de la civilisation et sommes devenus, pour l'instant, un simple animal sans malice et une brebis du troupeau de la nature. Quand cette heure vint à moi parmi les pins, je m'éveillai, assoiffé. Ma gourde était à côté de moi, à demi remplie d'eau. Je la vidai d'une traite, et comme je me sentais tout à fait réveillé après cette froide aspersion interne, je me redressai pour me rouler une cigarette. Les étoiles étaient claires et colorées comme des joyaux, mais sans annoncer la gelée. Une légère vapeur argentée tenait lieu de voie lactée. Grâce à la blancheur du bas, je pus repérer Modestine qui tournait en rond au bout de sa corde. Je l'entendais mâcher assidûment le gazon, mais il n'y avait pas un autre son, à part l'indescriptible et doux murmure du ruisseau sur les pierres. Je fumais, paresseusement étendu, en étudiant la couleur du ciel, comme nous appelons cet espace vide. Du gris rougeâtre visible derrière les pins, au bleu sombre luisant entre les étoiles. Nuit après nuit, un lit est fait et nous attend dans les champs, où Dieu tient chambre ouverte. Je pensais avoir redécouvert l'une de ces vérités qui sont révélées aux sauvages et cachées aux économistes politiques. Du moins avais-je découvert un plaisir nouveau pour moi. Pourtant, alors même que j'exultais dans ma solitude, je pris conscience d'un étrange manque. J'aurais voulu une compagne couchée près de moi à la lueur des étoiles, silencieuse et immobile, mais toujours à portée de main. Car il est une compagnie plus tranquille même que la solitude, et qui, bien comprise, est la solitude rendue parfaite. Et vivre à la belle étoile avec une femme qu'on aime est de toutes les vies la plus complète et la plus libre. Quand je me réveillais, dimanche 29 septembre, la plupart des étoiles avaient disparu. Seules les plus puissantes compagnes de la nuit brûlaient encore dans le ciel. J'allumai ma lanterne, et à sa lumière de ver luisant, je mis mes bottines et mes guêtres, puis je brisai un peu de pain pour Modestine, je remplis ma gourde au robinet, et j'allumai ma lampe à alcool pour me faire bouillir un peu de chocolat. Bientôt, une large raie orange commença à se fondre en or le long des cimes du Vivarais. Une joie solennelle s'empara de mon esprit devant cette superbe venue progressive du jour. Je me dépêchai de préparer mon paquetage et de m'attaquer à l'ascension raide qui m'attendait, mais j'avais l'esprit préoccupé. Ce n'était qu'une idée folle, mais ce genre d'idée est parfois bien importun. J'avais été très hospitalièrement reçu et ponctuellement servi dans mon vert caravansérail. La chambre était aérée, l'eau excellente, et l'aube m'avait réveillé à heure juste. Je ne dis rien des tapisseries ou de l'inimitable plafond, ni de la vue que j'avais de mes fenêtres, mais je me sentais redevable à quelqu'un pour tout ce généreux hébergement. Et il me plut, en partant, de laisser, en plaisantant à moitié, quelques pièces de monnaie sur le gazon. Assez pour payer le logement de cette nuit. J'ose espérer qu'elles ne sont pas tombées entre les mains de quelques bouviers repus et grossiers. Le pays des Camisards, à travers le Lozère.
Le sentier que j'avais suivi la veille disparut bientôt. Et je poursuivis ma route sur le gazon en pente raide en me repérant grâce à un alignement de piliers
semblable à ceux qui m'avaient guidé à travers le goulet. Il faisait déjà chaud. J'attachais ma veste au paquetage et je cheminais en bras de chemise. Modestine elle-même était de bonne humeur et se lança spontanément, pour la première fois à ma connaissance, dans un trot chaoté qui, à chaque secousse, envoyait les avoines danser dans la poche de mon manteau. Derrière moi, au nord du Gévaudan, la vue s'étendait à chaque pas. À peine un arbre, à peine une maison au milieu des champs, dans ces coteaux sauvages qui couraient au nord, à l'est et à l'ouest, tout bleu et or dans les brumes et le soleil du matin. Une multitude de petits oiseaux passaient et gazouillaient sur mon chemin. Ils se perchaient sur les piliers de pierre. Ils picoraient et se pavanaient sur l'herbe, et je les vis former de vastes cercles dans le ciel bleu, en montrant de temps à autre de translucides ailes voltant entre le soleil et moi. Le Lozère se déploie presque d'est en ouest et coupe le Gévaudan en deux parties inégales. Son point culminant, ce pic de Finiels sur lequel je me trouvais, s'élève à 1700 mètres au-dessus de la mer. Et par temps clair, on peut voir tout le Bas-Languedoc jusqu'à la Méditerranée. J'ai parlé à des gens qui prétendaient ou croyaient avoir vu, du pic de Finiels, des voiles blanches voguant au large de Montpellier et de Sète. Au nord, les hauts plateaux que j'avais traversés, sans forêt, sans grandeur dans leur relief, autrefois célèbres pour leurs loups et guère pour autre chose. Mais devant moi, à demi voilé dans la brume de soleil, s'étendait un nouveau Gévaudan, riche, pittoresque, rendu illustre par des événements exaltants. On peut dire au sens large que j'étais déjà dans les Cévennes, au Monastier et tout au long de mon trajet. Mais au sens strict et local, seule la région confuse et échevelée, alors située à mes pieds, méritait ce nom. Et c'est ainsi que l'emploient les paysans. Ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Dans cet indéchiffrable labyrinthe de collines se déroula une guerre de bandits, une guerre de bêtes sauvages qui opposait le grand monarque avec toutes ses troupes et ses maréchaux d'une part, et quelques milliers de montagnards protestants d'autre part. Il y a 180 ans, les Camisards tenaient un poste jusque sur le Lozère, où je me trouvais. Ils avaient une organisation, des arsenaux, une hiérarchie militaire et religieuse. Sur le sommet de la colline où je m'étais arrêté pour regarder devant moi, la série de piliers de pierre s'interrompit brusquement. Un peu plus bas seulement apparaissait une sorte de sentier qui descendait en une pente à se rompre le cou et serpentait comme un tire-bouchon. Il menait à une vallée, située entre des montagnes en cours d'éboulement, hérissée de rochers comme autant de chaumes dans un champ moissonné, où s'étageaient en contrebas les prairies vertes. Je suivis le sentier avec précipitation. La raideur de la pente, les continuels lacets déliés de la descente et le vieil espoir jamais éteint de trouver du neuf dans un pays neuf, tout conspirait à me donner des ailes. Toute la descente est pour moi comme un rêve, tant elle fut accomplie rapidement. À peine avais-je quitté le sommet, que la vallée se refermait autour de mon chemin et que le soleil pesait sur moi dans l'atmosphère stagnante des basses terres. Je ne vis pas âme qui vive, et je n'entendis aucun autre son que celui d'un ruisseau. Le rocheux squelette du monde était ici vigoureusement exposé au soleil et à l'air. Les pentes étaient abruptes et changeantes. Les chênes s'accrochaient aux collines, robustes, riches de feuilles et touchées par l'automne de couleurs vives et lumineuses. Ici et là, à droite et à gauche, un ruisseau descendait une gorge pleine d'un tumulte de rocs blancs comme neige. Au fond, la rivière, car le ruisseau devenait vite une rivière en rassemblant tous ses bras alors qu'il poursuivait son chemin au petit trot, écumait un moment en rapide désespéré avant de s'étendre en bassin d'un vert de mer enchanteur mêlé d'un brun aqueux. Dans mes voyages les plus lointains, jamais je n'ai vu rivière d'une teinte si changeante et si délicate. Le cristal n'était pas plus clair, les prairies de moitié aussi vertes. Et à chaque bassin, je frissonnais, parcouru du désir de quitter mes vêtements chauds, poussiéreux et lourdement matériels pour baigner mon corps nu dans l'air et l'eau de la montagne.
dans la vallée du Tarn.
Une route neuve mène du pont de Montvert à Florac par la vallée du Tarn. C'est un rebord lisse et sablonneux qui court presque à mi-chemin entre le sommet des Apiques et la rivière au fond de la vallée. En suivant la route, je passais sans cesse d'une baie d'ombre à un promontoire de soleil d'après-midi. Ce site rappelait celui de Killiecrankie. Un goulet profond et sinueux entre des collines, avec le Tarn tout en bas qui poussait de merveilleux rugissements rauques et des sommets découpés qui se dressaient tout en haut sous le soleil. Une étroite frange de frêne longeait les cimes, comme du lierre sur une ruine. Mais sur les pentes inférieures, jusque dans chaque vallée, avec fermeté, les châtaigniers d'Espagne, dont le feuillage forme une tente, tenaient tête au ciel. Ils dégageaient un léger parfum suave qui imprégnait l'air de l'après-midi. L'automne avait posé ses teintes dorées ou ternies dans la verdure, et le soleil brillait si bien au travers du vaste feuillage en le réchauffant que chaque châtaignier se détachait des autres, non en ombre, mais en lumière. Entre l'humeur lambine de Modestine et la beauté de la scène, nous ne fîmes guère de progrès de tout l'après-midi. Constatant finalement que le soleil, bien qu'encore loin de se coucher, commençait déjà à déserter l'étroite vallée du Tarn, je me mis à chercher un lieu où camper. Au bout d'un peu plus d'un kilomètre, je vis à une vingtaine de mètres au-dessus de la route un petit plateau assez large pour accueillir mon sac et où le tronc d'un vieux châtaignier énorme servait de parapet. Avec des peines infinies, à coups de pied et d'aiguillon, j'y menais Modestine et je me hâtais de la décharger. Il faisait chaud, étouffant même dans la vallée. Le chant perçant des grenouilles, comme les trémolos d'un sifflet contenant un petit pois, montait des berges de la rivière avant le coucher du soleil. Alors que la nuit tombait, de légers frottements commencèrent à parcourir les feuilles mortes. De temps en temps, un vague gazouillis tombait dans mon oreille, et de temps en temps, je croyais voir les mouvements rapides de quelque chose d'indistinct entre les châtaigniers. Une foule de grandes fourmis se pressait sur le sol. Des chauves-souris me frôlaient et les moustiques bourdonnaient au-dessus de ma tête. Le sommeil se déroba longtemps à mes paupières. Au moment où je commençais à sentir le repos se glisser dans mes membres et s'installer profondément dans mon esprit, un bruit soudain près de ma tête me rendit à nouveau tout à fait conscient et, je l'avouerai franchement, me glaça le sang. C'était le genre de bruit que fait quelqu'un qui gratte bien fort avec ses ongles. Cela venait de sous le havresac qui me servait d'oreiller et se répéta trois fois avant que j'aie pu me redresser et me retourner. On ne voyait rien, on n'entendait rien, sauf quelques mystérieux frottements proches et lointains et l'incessant accompagnement de la rivière et des grenouilles. J'appris le lendemain que les châtaigneraies sont infestées par les rats. Ils étaient probablement responsables des frottements, des gazouillis et des grattements. Mais sur le moment, l'énigme était restée insoluble, et j'avais dû calmer mes esprits de mon mieux, plein d'incertitudes et d'interrogations quant à mes voisins.
Dans la vallée du Mimente.
Le mardi 1er octobre, nous quittâmes Florac tard dans l'après-midi, l'âne fatigué avec l'ânier fatigué. Un peu en amont du Tarnon, un pont de bois couvert nous fit pénétrer dans la vallée du Mimente. La rivière était surplombée par d'abrupts rochers rouges. Ça et là, un champ de millet tout rouge ou quelques pommiers incrustés de pommes rouges. La route passait tout près de deux hameaux noirs, dont un pourvu d'un vieux château perché à son sommet pour réjouir le cœur du touriste. Je m'approchais à présent de Casañas, amas de toits noirs à flanc de colline, dans cette vallée sauvage parmi les châtaigneraies, surveillée dans l'air clair par de nombreux sommets rocheux. Quoique éloigné du courant des affaires humaines, ce hameau avait déjà joué un rôle dans l'histoire de France. Non loin, dans les cavernes des montagnes, se trouvait un arsenal des Camisards, l'un des cinq où ils entreposaient vêtements, blé et armes en cas de nécessité, où ils forgeaient baïonnettes et sabres et fabriquaient leur propre poudre avec du charbon de bois de saule et du salpêtre bouilli dans des marmites. Peu après deux heures, Je traversai le Miment et je pris un chemin rocailleux qui montait une colline vers le sud, plein de pierres glissantes et de mottes de bruyère. J'étais maintenant à la limite de deux grands partages des eaux. Derrière moi, toutes les rivières se dirigeaient vers la Garonne et l'océan Atlantique. Devant moi s'étendait le bassin du Rhône. Comme du haut du Lozère, on voyait briller par temps clair le golfe du Lion. Nous arrivâmes enfin à une large grande route tapissée de poussière insonore. La nuit était tombée et la lune brillait depuis un bon moment sur la montagne opposée. Quand à un tournant, mon âne et moi nous trouvâmes tout à coup dans sa lumière. J'avais vidé mon flacon de cognac à Florac car je ne pouvais plus supporter ce breuvage que j'avais remplacé par un Volnay généreux et parfumé. Je bus alors sur la route à la Sainte Majesté de la Lune. Ce ne fut que quelques gorgées, mais je perdis conscience de mes membres et mon sang se mit à couler d'un flot impétueux. Même Modestine reçut l'inspiration de ce soleil nocturne purifié et secoua ses petits sabots avec plus d'allant. La route descendait en lacets rapides à travers les massifs de châtaigniers. Une poussière chaude montait de nos pieds et s'envolait au loin. À un certain point, alors que je descendais la route qui serpentait à angles aigus, la lune disparut derrière la colline. Je poursuivis mon chemin dans une obscurité profonde, jusqu'à ce qu'un nouveau lacet me jette à brûle-pourpoint dans Saint-Germain-de-Calbert. Le village était endormi et silencieux, enseveli dans une nuit opaque. D'une seule porte ouverte s'échappait la lumière d'une lampe pour me montrer que je me trouvais parmi des habitations humaines. Les deux dernières commères de la soirée, bavardant encore contre le mur d'un jardin, me dirigèrent vers l'auberge.
Le dernier jour.
Jeudi 3 octobre, à mon réveil, j'entendis un grand concert de cocoricots claironnants et de caquettements satisfaits. À la fenêtre de la chambre, propre et confortable où j'avais dormi, il me fut donné de contempler un matin ensoleillé dans une profonde vallée de châtaigneraies. Il était encore tôt, et le chant des coqs, la lumière rasante et les longues ombres m'encouragèrent à sortir pour aller admirer les environs. Rarement lieu m'a plu davantage. J'évoluais dans une atmosphère de plaisir. Je me sentais léger, tranquille et content. Mais peut-être n'était-ce pas le lieu seul qui disposait ainsi mon esprit. Peut-être certaines personnes pensaient-elles à moi dans un autre pays. Ou peut-être une pensée s'en était-elle allée comme elle m'était venue, inaperçue mais bienfaisante. Car certaines pensées, qui seraient à coup sûr les plus belles, disparaissent avant que l'on ait pu vraiment connaître leurs traits. Comme si un dieu, voyageant par nos vertes routes, se contentait d'ouvrir la porte, de jeter un regard souriant dans la maison et de repartir à jamais. Était-ce Apollon, Mercure ou Cupidon les ailes repliées, qui le dira? Mais nous vaquons à nos occupations avec plus d'allant et ressentons paix et plaisir en nos cœurs. Avec le dîner et le café, il était 3 heures passées quand je quittais Saint-Germain-de-Calbert. Je descendis le long du Gardon de Mialet, grand cours d'eau étincelant mais sans eau, et je traversai Saint-Étienne de Vallée Française, ou Val-Francesque, comme on disait autrefois. Le soir, je commençai à gravir la colline de Saint-Pierre. C'était une ascension longue et raide. Longtemps, une voiture vide regagnant Saint-Jean-du-Gard me suivit sur mes talons, puis finit par me dépasser près du sommet. Je m'étais hâté autant que me le permettait Modestine, à la vitesse maximale, car j'avais grande envie de contempler la vue de l'autre côté avant que le jour ne s'évanouisse. Mais il faisait nuit quand j'atteignis le sommet. La lune, haute et claire, avait commencé sa course, et seules quelques bandes grises de crépuscule s'attardaient à l'ouest. À mes pieds, une vallée béante, engouffrée dans les ténèbres, s'étendait comme un trou dans la création. Mais le contour des collines se détachait nettement sur le ciel. C'était le mont Aigoual. Modestine et moi prîmes notre dernier repas ensemble. Ce fut un encas au sommet de Saint-Pierre. Moi sur un tas de cailloux, elle debout près de moi au clair de lune, mangeant solennellement le pain dans ma main. La pauvre bête mangeait plus volontiers de cette façon, car elle avait une sorte d'affection pour moi. Affection que j'allais bientôt trahir.
« Adieu, Modestine.
Après examen, le matin du 4 octobre, Modestine fut déclarée inapte au voyage. Il lui faudrait au moins 2 jours de repos, selon l'aubergiste, mais je désirais maintenant rejoindre Alès pour mon courrier. Étant dans un pays civilisé, car pourvu de voitures, je décidai de vendre ma compagne et de partir par la diligence cet après-midi. Avant 10 heures, je reçus une offre de 25 francs, et avant midi, après une discussion désespérée, je la vendis avec la selle et le reste pour 35 francs. Le gain pécuniaire n'est pas évident, mais j'avais acheté ma liberté du même coup. Ce n'est qu'une fois assis à côté du cocher, alors que nous traversions bruyamment une vallée rocheuse pleine d'oliviers nains, que je pris conscience de mon chagrin. J'avais perdu Modestine. Jusqu'alors, j'avais cru que je la détestais, mais maintenant qu'elle était partie... Eh oh, quelle différence pour moi. Pendant 12 jours, nous avions été de vrais camarades. Nous avions voyagé près de 200 kilomètres, nous avions franchi plusieurs sommets respectables et avions trotté de nos 6 pattes sur plus d'une route rocheuse ou bourbeuse. Elle aimait manger dans ma main. Elle était patiente, élégante dans sa silhouette, d'une couleur de souris idéale et inimitablement petite. Ses défauts étaient ceux de sa race et de son sexe. Ses vertus étaient les siennes. Le père Adam avait pleuré en me la vendant. Après l'avoir vendue à mon tour, je fus tenté de suivre son exemple et, me trouvant seul avec un cocher de diligence et 4 ou 5 jeunes gens charmants, je n'hésitais pas à céder à mon émotion.
Voyage avec un âne dans les Cévennes, de Robert Louis Stevenson. Traduction, Laurent Bury. Extrait choisi par Caroline Oisana. Lu par François de Broer. Avec la voix de Marie Dompny. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Pierre Lemaire. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Voyage avec un âne dans les Cévennes est publié dans la Pléiade.